c'est bien sa voix que vous avez entendue. C'est Benoît Bouscarel pour le journal de la rédaction. Bonjour Benoît.
Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement, confronté à une croissance poussive en France, va devoir faire des choix à l'occasion de sa rentrée cette semaine. Premier conseil des ministres après-demain. Et il faudra probablement choisir entre respect des engagements sur l'endettement et poursuite des dossiers annoncés comme prioritaires, notamment sur le social. On voit ça dans un instant.
Europe Écologie Les Verts annonce vouloir saisir la justice pour faire interdire le glyphosate commercialisé par Monsanto. Qu'en pensent les agriculteurs qui épandent en ce moment même du Roundup pour préparer les semis de l'automne. Reportage à suivre dans une exploitation de Seine-et-Marne.
L'Amérique du Sud, à son tour confrontée aux problèmes causés par les migrations de masse. Hier, le président brésilien Michel Temer a dû intervenir en convoquant une réunion d'urgence suite à des affrontements au nord du pays entre populations locales et migrants vénézuéliens et nicaraguayens. Anne Vigna nous appelle du Brésil.
Et puis des retrouvailles pour la première fois depuis 2015 à la frontière entre les deux Corées. Retrouvailles de familles séparées par la guerre il y a plus de 60 ans. C'est un reportage de Louis Paligiano à Séoul pour France Culture.
Il y a comme un parfum de reprise déjà en ce lundi 20 août. Le gouvernement prépare sa rentrée. Elle sera effective mercredi avec le premier conseil des ministres qui déjà s'annonce brûlant avec des arbitrages importants attendus sur le budget 2019 et au menu d'un séminaire gouvernemental le même jour qui sera présidé par Emmanuel Macron figurera la feuille de route sur les grandes réformes économiques et sociales de l'an 2 du quinquennat. Maria Melgurdi.
Parmi les dossiers brûlants de cette rentrée, la réforme des retraites et la mise en place annoncée d'un régime universel. Deux questions sensibles à l'horizon, la fin des régimes spéciaux comme ceux de la SNCF et la remise en cause de l'âge de départ anticipé de certains fonctionnaires. Le calendrier est serré, les syndicats seront reçus à la fin du mois par Édouard Philippe. Ils craignent d'ores et déjà une retraite au rabais. Ils vont donc tenter de faire reculer le gouvernement avant le dévoilement des grandes orientations en décembre. L'autre grande réforme, c'est celle de l'assurance chômage, dont la dette est de 35 milliards d'euros. Le gouvernement veut limiter les pertes de l'UNEDIC. Aucune action concrète définie. Les négociations vont donc être décisives. Côté syndical, on redoute une baisse des droits. Enfin, le plan anti-pauvreté qui devait être présenté en juillet le sera finalement en septembre. Parmi les mesures attendues, l'instauration par exemple d'un petit déjeuner gratuit dans certaines écoles et collèges. L'enjeu est de taille pour Emmanuel Macron, souvent taxé de président des riches, alors que 9 millions de Français vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Un nouvel incendie dans un immeuble d'habitation à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis hier soir. 7 personnes dont 5 enfants ont été grièvement blessés. Il y a moins d'un mois, dans la même commune, une mère et ses 3 enfants avaient trouvé la mort dans l'incendie de leur habitation. Europe Écologie Les Verts annonce vouloir déposer aujourd'hui un recours en référé pour tenter de faire interdire le glyphosate en France. Il s'agit de contester la légalité de la mise sur le marché du désherbant quelques jours après la première condamnation aux États-Unis de Monsanto, reconnu coupable de l'intoxication d'un jardinier atteint d'un cancer. Les Verts veulent saisir l'occasion et ils demandent l'interdiction pure et simple de la molécule. Une question qui, en cette fin d'été, à quelques semaines des semis de colza par exemple, est parfaitement d'actualité et beaucoup d'agriculteurs, comme d'ailleurs de chercheurs, se posent la question de l'après-glyphosate. Reportage dans une exploitation de Maison Rouge en Seine-et-Marne, Diane Sprimont.
Sur ses 250 hectares de terre, Cyril Millard vient inspecter les 10% où, selon lui, il n'a pas d'autre choix que d'utiliser du glyphosate.
Le chardon, là, il n'en a pas eu assez. Là, vous voyez, il y a 2 chardons. L'année prochaine, il y en aura 20. Si je coupe pas les 20, il y en aura 200. Et 200, je récolte plus rien à 200 chardons.
Depuis 7 ans, il a réduit son usage de glyphosate de 20 à 30% grâce au désherbage mécanique. D'après lui, il ne peut pas faire plus. Et au sein de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Seine-et-Marne qu'il préside, c'est la même chose.
Si on n'a pas un produit comme ça qui tue jusqu'à la racine, et c'est le seul produit qui fait ça, c'est le glyphosate, mes cultures, elles vont se retrouver envahies d'herbes comme ça. En moins de 5 ans, je ne pourrai plus cultiver mes parcelles.
Avec le glyphosate, il désherbe 25 hectares par heure, sans le produit 8 fois moins et ça lui coûte le double. Alors pour lui, les autres méthodes menacent l'avenir de son exploitation. L'Institut Arvalis recherche des alternatives à ces produits phytosanitaires. Norbert Benamou est son directeur général.
Un horizon à 3-5 ans est un horizon qui est tendu. Une réduction de 50% dans le domaine des grandes cultures sur cet horizon, ça paraît probablement jouable. Au-delà, c'est difficile, compte tenu du temps nécessaire pour développer des solutions alternatives.
Pour les céréales et le colza, certains s'en passent déjà totalement, mais ils ne sont que 3 à 4%.
Reportage de Diane Sprimon.
Vous écoutez France Culture, il est 7h05. Au Brésil, Bruno Buscarel, une crise migratoire couve. Elle commence à inquiéter très sérieusement les autorités.
L'Amérique du Sud, comme l'Europe, confrontée aux conséquences de migrations massives de populations. Hier, à l'issue d'une réunion de crise convoquée par le président brésilien Michel Temer, il a été décidé d'envoyer un contingent de la Force nationale dans la région frontalière de Pacaraima, dans le nord du pays. Des affrontements violents y ont une nouvelle fois opposé des habitants à des migrants vénézuéliens et nicaraguayens ce week-end. Des migrants toujours plus nombreux, ils fuient leur pays. On estime que plus de 500 réfugiés franchissent chaque jour la frontière. La correspondance d'Anne Vigna.
On va mettre le feu. Le feu, mettez le feu, mettez le feu.
Les images tournées par les habitants de la ville frontière de Pacaraima montrent une foule en colère attaquer les camps de réfugiés de Vénézuéliens, casser les abris et brûlant leurs affaires. Finalement, peu de blessés ni de morts à déplorer, mais beaucoup de menaces captées par les caméras qui font craindre que ces attaques pourraient se reproduire.
C'est comme ça à présent. S'il n'y a pas d'autorité pour nous, nous allons être les autorités. Dehors les Vénézuéliens de Pacaraima.
Plus loin, l'image montre un pick-up avec des haut-parleurs. On ne voit pas le visage de celui qui encourage la foule à poursuivre.
Nous sommes épuisés, nous sommes fatigués de tout ce rien. Que du blabla, que de la parole. Et jusqu'à présent, rien n'a été fait pour nous. J'espère que cette fois, ce sera la bonne.
La ville frontière de Pacaraima est actuellement gérée par l'armée brésilienne et l'Office des Nations Unies pour les réfugiés. Les Vénézuéliens sont globalement pris en charge, même si près de 2000 dormiraient dans les rues. Ce n'est pas la première fois que des attaques à caractère raciste ont lieu dans cet État. Le Roraima continue de demander une aide plus importante au gouvernement fédéral pour gérer la crise. Le Brésil a voulu exiger la présentation d'un passeport aux réfugiés pour accéder aux services de santé, une mesure à laquelle il a finalement renoncé.
Reportage d'Anne Vigna. Au Venezuela, justement, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le nouvel ordre économique voulu par Nicolas Maduro pour tenter de conjurer la crise financière et monétaire. Un plan qui consiste surtout à lancer une nouvelle monnaie, le bolivar souverain, adossé à la cybermonnaie Petro et indexé sur les cours du pétrole, ce qui ne rassure pas la population. La Grèce retrouve une partie de sa souveraineté aujourd'hui et le chemin des marchés avec la fin officielle du programme d'aide européen pour le pays, la fin de 8 années de tutelle. Mais certainement pas la fin de l'austérité pour la population. On y revient dans notre journal de 8h. Début aujourd'hui aux États-Unis de la deuxième semaine du procès de Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Donald Trump. Il est soupçonné notamment d'avoir dissimulé des millions de dollars de revenus perçus lorsqu'il était conseiller de l'ancien président ukrainien Yanukovych. Et l'enquête russe de son côté continue. Samedi, le New York Times faisait savoir qu'un des avocats de la Maison-Blanche, Don McGahn, coopère largement avec les équipes du procureur spécial Robert Mueller.
Une délégation d'un peu moins d'une centaine de Sud-Coréens a passé tôt ce matin la frontière avec la Corée du Nord, Benoît Bouscarel.
Ces personnes âgées, voire très âgées, ont été sélectionnées par un système de loterie électronique. Elles vont retrouver, pour quelques heures seulement, des membres de leur famille qu'ils n'ont pas vus depuis plus de 60 ans pour certains. Partagés entre joie et amertume, ils savent qu'ils verront leurs proches très certainement pour la dernière fois, instrumentalisés qu'ils sont par les pouvoirs politiques pour illustrer la détente actuelle entre les deux Corées. À Séoul, Louis Paligiano.
Des petits appareils ménagers, des compléments alimentaires, quelques vieilles photos. Lee Soo-nam, 77 ans, nous dresse la liste des cadeaux qu'il s'apprête à offrir à son grand frère, qu'il n'a pas vu depuis plus de 60 ans, et nous livre son impression au moment où la Croix-Rouge lui a annoncé qu'il avait été sélectionné pour participer à ses retrouvailles.
Je ne savais même pas s'il était vivant ou mort après la guerre de Corée. Quand j'ai appris qu'il était en vie, j'étais extrêmement heureux et surpris. J'ai hâte de le revoir.
Lee s'assombrit néanmoins en pensant au fait qu'ils se reverront sans doute pour la dernière fois.
Maintenant que je sais que nous allons nous revoir, je crains le moment où nous serons de nouveau séparés. Mes sentiments sont partagés car je sais qu'il est vieux maintenant et que je le suis aussi.
Lee Sang-koo a quant à lui été tiré au sort il y a 3 ans lors des dernières réunions des familles séparées par la guerre de Corée. Le fermier de 87 ans se remémore cette expérience avec amertume.
Je n'ai rien ressenti de particulier. Tous les membres de ma famille étaient décédés, sauf mes deux petits frères qui étaient très jeunes la dernière fois que nous nous sommes vus. Si j'avais pu revoir mes parents, ça aurait été différent.
Depuis 1988, plus de 132 000 personnes se sont portées candidates à ces retrouvailles. Aujourd'hui, seules quelques 57 000 d'entre elles, désormais très âgées, sont encore en vie.
Louis Palidziano. En France, le retour de la chaleur aujourd'hui, de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France. Le temps sera nuageux, même pluvieux dans la matinée. Partout ailleurs, c'est le soleil qui va dominer et faire remonter les températures. Les maximales seront comprises entre 22 et 27 degrés au nord, jusqu'à 34 degrés au sud, Julie Gacon.
Merci Benoît Boubouz, car elle vous revenez tout à l'heure à 7h30.
Oui.
À tout à l'heure.
À tout de suite.